Merci, merci beaucoup Laura, merci beaucoup également Marcia pour l'organisation de cette très belle initiative et surtout bah, merci aussi Thibault pour si j'ai bien compris ton aide organisationnelle sur cet événement. J'aimerais commencer en fait par une affaire anodine qui n'a fait l'objet ni d'une publication ni d'un commentaire dans aucune revue. En août 2017, une franco-congolaise a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuites pénales par les autorités britanniques. Pour résumer, lors de son précédent séjour à Londres, elle avait été accusée de faux monnayage et elle avait fui en France ces accusations. Elle a été arrêtée et elle a été amenée devant la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris, qui devait déterminer si le mandat d'arrêt européen devait être exécuté. Or, cette femme avait trois enfants en bas âge vivant en France. Et cette information fut capitale pour les débats, puisque l'éloignement de cette femme de la France l'éloignerait en même temps de ses enfants. Dans ses réquisitoires, l'avocat général a considéré que les mécanismes existants de coopération pénale permettraient à cette femme de revenir en France pour purger sa peine, tandis qu'à l'inverse, les avocats de la défense plaidaient l'insuffisance de ces mesures, estimant que dans tous les cas, la famille serait déchirée. Mais ce qui était intéressant dans cette affaire, c'est que pour l'ensemble des parties, le code de procédure pénale autorise la chambre de l'instruction à refuser de transférer un individu vers un État membre si l'exécution du mandat d'arrêt européen risque de porter atteinte à ses droits fondamentaux. Pourtant, une telle position est manifestement contraire aux droits de l'Union européenne. En effet, les motifs de refus d'exécuter un mandat d'arrêt européen sont strictement délimités. La décision CAN ne contient aucune clause autorisant la suspension pour non-respect des droits fondamentaux et la jurisprudence de la Cour de justice ne l'a admis que dans des cas très très précis. En août 2017, seuls les traitements inhumains ou dégradants permettaient d'envisager de suspendre l'exécution d'un mandat d'arrêt européen. Envisager de suspendre la remise de cette femme au nom du droit au respect de sa vie privée et familiale s'opposait ainsi clairement à la lettre et à l'esprit du droit de l'Union. Pourtant, le siège comme le ministère public dans ces audiences sont exclusivement composés de magistrats expérimentés et spécialisés dans les questions d'extradition et de mandat d'arrêt européen. Les avocats sont aussi des pénalistes versés eux-mêmes dans ces matières, et donc ce n'est ni par incompétence ou par ignorance qu'ils ont adopté leurs positions respectives. Seulement, ces magistrats et avocats compétents ont simplement unanimement considéré que le droit de l'Union européenne pouvait être écarté si cela risquait de violer les droits fondamentaux de la prévenue. Or, un tel raisonnement n'est pas le fruit de circonstances particulières. Ce procès en lui-même n'avait absolument rien de particulier, et ces discussions se répètent toutes les semaines devant la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris. La Cour de cassation, d'ailleurs, a repris cette position, ainsi que les juridictions pénales des autres États membres. On la retrouve également en dehors du droit pénal, en droit administratif, lors de la mise en œuvre du règlement Dublin III qui détermine l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, en droit constitutionnel dans les discussions relatives à l'application de mesures d'austérité, en droit privé dans les contentieux relatifs à la politique agricole commune. Autrement dit, par-delà les différences qui impliquent la variété des contentieux et des raisonnements juridictionnels dans les différents États membres, il existe une réalité commune, des juridictions nationales refusent de mettre en œuvre le droit de l'Union européenne afin d'éviter une violation des droits fondamentaux garantis par leur constitution. Et il m'a semblé, c'est ce que j'ai essayé d'étudier, que la répétition de ces refus signale qu'il ne s'agit pas d'un phénomène ponctuel, d'erreur des juridictions nationales ou de comportement volontairement hostile aux droits de l'Union européenne. Pour comprendre pourquoi des magistrats expérimentés et compétents pouvaient sans hésiter une seule seconde décider de suspendre la mise en œuvre du droit de l'Union européenne, il faut au contraire se tourner vers la nature juridique de l'Union européenne, la place des droits fondamentaux dans son ordre juridique et les rapports entre les ordres juridiques nationaux et européens. Et pour y parvenir, j'ai essayé, comme tu l'as indiqué, Laura, j'ai essayé de m'intéresser à une question en fait ancienne en droit de l'Union européenne, qui est l'équivalence des protections des droits fondamentaux. Pour synthétiser cette notion, c'est un raisonnement par lequel les juridictions nationales s'interrogent sur la possibilité de refuser de mettre en œuvre le droit de l'Union européenne afin d'éviter une violation des droits fondamentaux, mais décident de le suspendre une fois qu'ils ont la garantie que le système juridictionnel de l'Union européenne garantira une protection substantiellement équivalente à celle garantie par l'ordre juridique national. La première manifestation de ce raisonnement a eu lieu en Italie avec l'arrêt Costa de la Cour constitutionnelle italienne en 1963, qui donnera ensuite l'arrêt Costa de 1964 de la Cour de justice des communautés européennes, et surtout en Allemagne, avec la décision Zollange 1 de 1974. En France, la version la plus célèbre de ce raisonnement, c'est l'arrêt Arcelor du Conseil d'État en 2007, mais on le retrouve également implicitement dans la jurisprudence de la Cour de cassation ou du Conseil constitutionnel. L'objet de ce travail a donc été d'étudier ces différentes décisions, établissant une équivalence ou au contraire constatant une rupture, afin d'explorer la structure de l'Union européenne et des rapports entre ordres juridiques. En effet, ce que montre, pour synthétiser l'étude de l'équivalence, est qu'elle est en fait c'est un raisonnement qui est directement le produit de la nature juridique de l'Union européenne. Malgré son développement, l'Union européenne demeure une organisation internationale. Les ordres juridiques européens et nationaux demeurent formellement et fondamentalement distincts. Dans ce cadre dualiste, la réception du droit de l'Union européenne s'effectue au travers des États et de leur ordre constitutionnel. Ce processus conditionne la mise en œuvre du droit de l'Union européenne dans les ordres juridiques nationaux. En effet, en particulier parce que le droit de l'Union européenne est intégré aux ordres juridiques nationaux par le biais d'une clause de droit interne, généralement constitutionnelle, il doit être concilié avec les autres exigences constitutionnelles, et en particulier avec la protection des droits fondamentaux. Et c'est là le rôle de l'équivalence, permettre l'intégration du droit de l'Union européenne tout en protégeant l'intégrité de l'ordre constitutionnel des États membres. L'équivalence est ainsi directement dépendante de la structure de l'Union européenne, et c'est ce lien que j'ai essayé d'étudier en deux temps. D'abord, j'ai étudié l'établissement de l'équivalence, qui apparaît donc comme un produit de la structure de l'Union européenne, et notamment des principes de primauté et d'unité du droit de l'Union européenne. Et dans un second temps, j'ai étudié la mise en œuvre de l'équivalence, qui est elle aussi déterminée par la nature de l'Union européenne et par les rapports, et notamment la séparation, entre les ordres juridiques nationaux et européens. Donc, je suivrai le plan qui était celui de ma thèse, en commençant par étudier l'établissement de l'équivalence des protections des droits fondamentaux. Donc, comme je vous le disais en introduction, l'équivalence des protections des droits fondamentaux a émergé en tant que réponse au sein des ordres juridiques nationaux aux défis soulevés par les spécificités de l'ordre juridique de l'Union européenne. Ces spécificités entraînent des conséquences importantes en matière de protection des droits fondamentaux, qu'il m'a d'abord fallu étudier, avant d'explorer la réponse que l'équivalence y a apportée. Donc d'abord, les spécificités de l'Union européenne. Deux exigences spécifiques ont retenu mon attention. D'abord, l'exigence de primauté d'un côté, et de l'autre, l'exigence d'unité de la mise en œuvre du droit de l'Union européenne de l'autre. Concernant la primauté, d'abord, le point crucial est qu'il a toujours été conçu au travers d'un prisme dualiste, que ce soit dans la jurisprudence de la Cour de justice ou des juridictions nationales. Donc, lorsqu'on regarde la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la primauté apparaît comme une conséquence du principe de droit international d'indifférence vis-à-vis du droit interne. Un État membre ne peut arguer de l'existence d'une obligation interne, même constitutionnelle et même relative à un droit fondamental, pour violer l'obligation de mettre en œuvre le droit de l'Union européenne. Il y a aucune, d'ailleurs, je précise à titre d'incise, il n'y a aucune dimension hiérarchique dans cette présentation. C'est simplement la norme constitutionnelle apparaît comme un fait et la Cour de justice s'assure si oui ou non le fait est conforme à l'obligation et aux dispositions du droit de l'Union européenne. Elle ne se prononce pas sur un rapport hiérarchique quelconque entre les deux. Encore faut-il préciser un peu la portée de ce principe de primauté, puisque l'objectif du droit de l'Union européenne, l'objectif central du droit de l'Union européenne, notamment à ses débuts, c'était la constitution d'un marché intérieur uniforme. Et pour y parvenir, la Cour de justice, dans l'arrêt Costa, qui d'ailleurs n'est pas le premier à connaître le principe de primauté, mais qui reconnaît en fait en premier le principe de primauté interne. C'est-à-dire que la Cour de justice ne va pas simplement constater la contrariété entre droit communautaire et droit national, mais elle va indiquer aux organes de l'État, ici des juridictions ordinaires, ce qu'elle doit faire en cas de contrariété. Et ça va avoir une conséquence énorme sur la suite de la construction européenne, puisque ça implique une immixtion considérable du droit communautaire dans les ordres juridiques nationaux. Le droit communautaire alors été à l'origine de nombreux réagencements des ordres juridiques nationaux, parmi lesquels, on va y revenir, une évolution du contrôle des actes étatiques mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Cependant, cette extension du principe de primauté n'a pas conduit à une modification de la séparation entre les ordres juridiques nationaux et européens. La Cour de justice a vraiment une approche strictement dualiste de ces rapports. Elle l'établit notamment explicitement dans l'arrêt Simmental de 1978, qui concernait toujours d'ailleurs en fait la suite italienne des arrêts Costa. Et dans cet arrêt, elle nous indique que l'intégration du droit de l'Union européenne et de son principe de primauté dans les ordres juridiques nationaux n'est pas immédiate. Les autorités internes le mettent en œuvre sur le fondement d'une disposition de droit interne et non sur le fondement du droit de l'Union européenne. L'intégration des exigences issues de l'ordre juridique de l'Union européenne dans les ordres juridiques nationaux implique donc toujours une étape supplémentaire, une réception dont les modalités vont alors conditionner la portée de ces exigences en droit interne. Et ça, c'est évidemment confirmé par le point de vue des juridictions nationales. Devant la plupart des juridictions nationales, l'intégration du droit de l'Union européenne se fait explicitement sur le fondement de dispositions de droit interne généralement constitutionnelles. En France, il y a un petit débat entre communautaristes pour savoir si c'est l'article 55 ou l'article 88-1, mais dans les autres États, c'est absolument explicite. Et ce dualisme est toujours clair. Il y a un cas qui a fait pas mal de débats, qui est la jurisprudence Leski de la Cour de cassation belge, où là, la Cour de cassation avait l'air de revendiquer un monisme. Mais en fait, quand on regarde le raisonnement, on se rend compte qu'elle considère simplement qu'il existe une clause de droit interne qui est générale et inconditionnée et qui permet l'intégration du droit de l'Union européenne. Et donc son monisme, si je puis dire, est en fait toujours un dualisme puisqu'elle continue d'impliquer une séparation entre les ordres juridiques nationaux et européens. Et cette séparation implique que la portée du principe de primauté en droit interne soit conditionnée par le cadre constitutionnel au sein duquel ces organes agissent. Le droit de l'Union européenne, si vous voulez, est mis en œuvre dans l'État et est déterminée par cette inscription au sein de l'État. Certes, la réception du droit de l'Union européenne du principe de primauté peut provoquer un réagencement constitutionnel, et parfois considérable, mais cette opération ne se fera que dans le cadre du cadre constitutionnel étatique. En particulier, elle ne va pas conduire à mettre en cause les structures fondamentales de l'ordre constitutionnel, et notamment la protection des droits fondamentaux garantis par la Constitution. En cas de conflit entre ces obligations et l'obligation de mettre en œuvre la loi européenne, ce sont les droits constitutionnels qui seront protégés par les différents organes de l'État. Concernant l'unité de la mise en œuvre de la loi européenne, je serai plus bref. La Cour de justice exige que les juridictions ne contrôlent pas les actes étatiques mettant en œuvre la loi européenne sur le fondement de droit constitutionnel. La solution inverse produirait en fait une rupture de l'unité, chacun des États appliquant le droit de l'Union européenne en fonction de sa propre conception des droits fondamentaux. Les Allemands écartant l'application de telles normes qui seraient contraires à leur constitution, les Italiens feraient la même chose, les Espagnols, etc. Et donc on aurait un marché intérieur extrêmement éclaté. L'objectif d'unité, d'uniformité du droit de l'Union européenne implique que le contrôle des actes étatiques mettant en œuvre le droit de l'Union européenne ne soit fait qu'à l'aune d'une conception commune, propre à l'ordre juridique de l'Union européenne, des droits fondamentaux. Et pour éviter donc une telle situation, la Cour de justice a développé une définition autonome des différents droits fondamentaux, définition qui n'ignore pas la définition constitutionnelle des droits, ni d'ailleurs la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, mais qui peut, en toute hypothèse, en diverger. Je prends un seul exemple sur ce titre, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans certains États membres, il s'agit d'un principe fondamental d'interprétation des droits fondamentaux. En cas de doute, tous les arbitrages doivent être effectués de manière à préserver l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans l'ordre juridique de l'Union européenne, ce n'est qu'un paramètre d'interprétation, d'ailleurs assez secondaire, et qui peut être écarté lorsque des considérations plus importantes l'exigent. Et donc là, on a un exemple de divergence potentielle d'interprétation des droits fondamentaux. Donc, pour résumer ce que j'expliquais jusqu'à maintenant, les exigences de primauté et d'unité du droit de l'Union européenne dessinent des obligations finalement assez lourdes pour les États et leurs organes. Les actes étatiques mettant en œuvre le droit de l'Union européenne ne peuvent pas être contrôlés justement sur le fondement des droits constitutionnels. Ils ne peuvent l'être qu'au regard des droits fondamentaux garantis par l'ordre juridique de l'Union européenne. Au titre de l'obligation interne de mettre en œuvre le droit de l'Union européenne, les organes de l'État sont tenus par cette exigence. Toutefois, elles risquent évidemment de porter atteinte à leur obligation essentielle de protéger les droits fondamentaux constitutionnels. Et c'est là l'objet d'un raisonnement en termes d'équivalence que de permettre de résoudre cette tension. Et maintenant, je m'intéresserai à la résolution des tensions par l'équivalence des protections des droits fondamentaux. Au fond, les juridictions nationales ont accepté de suspendre le contrôle des actes étatiques mettant en œuvre le droit de l'Union européenne, ont accepté de se plier aux exigences de la Cour de justice, qu'une fois qu'elles ont établi que le système juridictionnel de l'Union européenne est capable de garantir une protection effective des droits fondamentaux substantiellement équivalente. Toute rupture de cette équivalence appelle alors au rétablissement du contrôle et éventuellement une suspension de la mise en œuvre du droit de l'Union européenne. Pour rentrer dans le détail, il y a deux critères qu'elles ont employés, une équivalence procédurale et une équivalence substantielle. Le critère de l'équivalence procédurale est le moins explicite. Peut-être parce qu'il est plus évident d'ailleurs. Mais dès la décision Frontini de 73 de la Cour constitutionnelle italienne, et surtout dès la décision Zolange II de 1986 de la Cour constitutionnelle allemande, ces juridictions ont admis que le système juridictionnel de l'Union européenne était apte à garantir une protection effective des droits fondamentaux. Cette acceptabilité du système juridictionnel de l'Union européenne est probablement renforcée par le rôle des juridictions nationales en son sein. Si la Cour de justice constitue le lieu des arbitrages fondamentaux, les juridictions nationales demeurent en fait complètement impliquées dans son bon fonctionnement. Ce sont elles notamment qui contrôlent le recours à un renvoi préjudiciel. Ce sont elles qui vont décider d'y recourir, mais aussi de la façon dont elles l'appliquent. Par exemple, il y a quelques semaines, deux arrêts ont été rendus suite à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, l'arrêt French Data Network par le Conseil d'État en France et un équivalent par la Cour constitutionnelle belge. Ces deux juridictions faisaient face exactement au même arrêt de la Cour de justice. Elles avaient à peu près le même droit interne. Elles ont chacune déduit des conséquences radicalement différentes puisque l'une a maintenu, la France a maintenu le système critiqué par la Cour de justice, tandis que l'autre l'a écarté. Autrement dit, les juridictions nationales demeurent entièrement maîtres du destin des renvois préjudiciels, et donc ça facilite complètement l'acceptabilité de la qualité du système juridictionnel de l'Union européenne, puisqu'elles sont, elles sont au fond maîtres du fonctionnement. Il y a cependant deux difficultés qui sont apparues dans la pratique. Il y en a une qui était liée au contrôle des traités, mais qui a été rapidement réglée. Il y en a surtout une beaucoup plus importante qui a concerné le contentieux relatif aux mesures d'austérité lors de la crise de la zone euro. La complexité de la prise de décision en matière d'austérité, ainsi que le recours à des formes de droit international, ont poussé la Cour de justice à ne pas imputer les mesures d'austérité aux institutions européennes. À ses yeux, lorsque la Grèce, le Portugal ou l'Italie furent soumises à des mesures d'austérité, elles ne le furent pas sur ordre des institutions européennes, mais de conventions internationales conclues entre les États membres de l'Union européenne. Dès lors, la Cour de justice refusa de se déclarer compétente pour contrôler ces décisions internationales, et l'une des conséquences de ce refus fut la réactivation du contrôle des actes étatiques mettant en œuvre les mesures d'austérité sur le fondement des droits constitutionnels, et notamment au Portugal, où le tribunal constitutionnel portugais a censuré certaines mesures d'austérité qui portait trop profondément atteinte à l'état social portugais. La deuxième branche de l'équivalence, c'est la plus connue, c'est l'équivalence substantielle qui constitue probablement la dimension la plus élaborée. Pour suspendre le contrôle des actes étatiques mettant en œuvre le droit de l'Union européenne, les juridictions ont présupposé que l'ordre juridique de l'Union européenne garantissait une protection des droits fondamentaux substantiellement équivalente. Derrière cette formule, relativement vague et dont le vague n'a jamais d'ailleurs été, n'a que très rarement été précisé. Ce qu'on veut dire par là, c'est que les arbitrages effectués au sein des ordres juridiques nationaux et européens sont censés avoir une orientation commune. L'équivalence est donc approximative, il n'y a aucune identité qui est exigée. Si on se tourne par exemple vers la grande affaire française en matière d'équivalence qui est l'arrêt Arcelor, on avait deux conceptions d'égalité qui étaient en jeu. Les personnes dans la même situation doivent être traitées de manière identique. Dans l'Union européenne, le principe d'égalité exige évidemment l'identité de traitement des situations similaires, mais il suppose également que des personnes se trouvant dans des situations différentes soient soumises à des régimes distincts. Pourtant, le Conseil d'État n'a eu aucune difficulté à admettre une équivalence entre ces deux conceptions de l'égalité. Donc on voit bien qu'il y a une approximation qui en fait est absolument nécessaire au fonctionnement de l'équivalence. En effet, dans son commentaire de l'une des décisions fondamentales en matière d'équivalence, Jutta Limbach, qui était alors présidente de la Cour constitutionnelle fédérale allemande, a relevé que la finalité d'un raisonnement en termes d'équivalence est bien de suspendre le rôle des juridictions constitutionnelles en tant que, je cite, « chien de garde des droits constitutionnels », afin de respecter l'obligation constitutionnelle de mettre en œuvre le droit de l'Union européenne. En exigeant seulement une protection similaire et non une identité des protections des droits fondamentaux, un raisonnement en termes d'équivalence évite que ce contrôle ne soit effectué et discuté dans chaque litige. Un contrôle systématique contreviendrait en effet aux exigences issues du droit de l'Union européenne. En limitant le contrôle aux seuls écarts majeurs, aux seules hypothèses où il y a vraiment une divergence majeure dans la manière de comprendre les droits fondamentaux, les juridictions nationales s'assurent au contraire que les contrôles demeureront rares et que pour l'essentiel, les actes étatiques mettant en œuvre le droit de l'Union européenne ne seront contrôlés que sur le fondement des droits garantis par l'ordre juridique de l'Union européenne et dans le cadre du système juridictionnel de l'Union européenne. Donc, cette approximation qui est vraiment, enfin, qui est flagrante lorsqu'on regarde le raisonnement des différentes juridictions, par exemple, la Cour constitutionnelle tchèque se contente de relever qu'un arrêt reflète la conception tchèque de tel ou tel droit fondamental, sans préciser ce que c'est que refléter, enfin, ce que ça implique. La Cour constitutionnelle italienne ne mentionne même pas les points de convergence lorsqu'il y a entre les droits fondamentaux, se contente de décréter qu'il y a une équivalence, etc. Bon. Et donc, cette approximation et ce flou qui entoure l'équivalence est absolument nécessaire au bon fonctionnement de l'équivalence pour permettre d'éviter en fait, un contrôle permanent de cette proximité, de cette similarité entre les ordres juridiques. Encore faut-il relever que le contrôle de l'équivalence n'a pas disparu, contrairement à une idée qui s'est répandue d'ailleurs dès les premiers arrêts en matière d'équivalence. Ce contrôle est exceptionnel, mais il perdure. L'équivalence, enfin, en fait, est précaire, en ce sens que les juridictions nationales peuvent toujours réactiver le contrôle des actes étatiques, mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Et l'exemple que je vous donnais à titre d'introduction du mandat d'arrêt européen devant la Chambre d'instruction l'illustre. Et le maintien de ce type de contrôle, qui peut prendre des formes et des moyens très différents en fonction des contentieux et des juridictions saisies, permet alors aux juridictions nationales de respecter l'obligation de protéger les droits fondamentaux. En cas d'écart grave ou systémique entre les ordres juridiques nationaux et européens, les juridictions nationales peuvent toujours suspendre la mise en œuvre du droit de l'Union européenne. En même temps, du point de vue de l'obligation de mettre en œuvre le droit de l'Union européenne, les principes de primauté et d'unité sont globalement respectés. Les contrôles à l'aune des droits fondamentaux sont rares et les cas de rupture d'équivalence encore plus rares. Autrement dit, le raisonnement en termes d'équivalence permet alors de concilier les obligations internes pesant sur les juridictions nationales. Il permet aux organes de l'État mettant en œuvre le droit de l'Union européenne de respecter le cadre constitutionnel au sein duquel ils s'inscrivent. C'est là l'objet en fait, central de l'équivalence qui apparaît alors comme une technique de gestion interne des conflits nés de la réception des exigences issues du droit de l'Union européenne dans les ordres constitutionnels. C'est au fond une construction assez baroque, précaire, et dont la mise en œuvre est également déterminée par cette origine conflictuelle des rapports entre les ordres juridiques nationaux et européens. Et je vais donc maintenant me tourner vers la question de la mise en œuvre de l'équivalence. La mise en œuvre de ces raisonnements est en effet aussi déterminée par la structure de l'Union européenne et des rapports entre les ordres juridiques nationaux et européens. Deux éléments le soulignent. D'abord, les processus d'évaluation et de contrôle de l'équivalence sont essentiellement internes aux États. Ensuite, la précarité même de l'équivalence résulte de cette séparation. Donc d'abord, la mise en œuvre interne aux États membres de l'équivalence. Les autorités internes, je vous l'ai dit, mettent en œuvre le droit de l'Union européenne sur le fondement du droit interne. C'est dans ce contexte que l'équivalence des protections de droits fondamentaux est également mise en œuvre. Il ne s'agit pas, absolument pas de nier l'incidence des rapports entre l'Union européenne et les États membres. Il s'agit simplement de montrer comment ces rapports sont déterminés à l'intérieur du cadre de référence que constitue l'État. Pour le montrer, je me concentrerai notamment sur un problème particulier qui est celui de la neutralisation de l'équivalence. Cette neutralisation, c'est une conséquence de l'ouverture des juridictions vis-à-vis du droit de l'Union. Les risques de rupture d'équivalence aux droits fondamentaux doivent être limités pour continuer à respecter les obligations de mise en œuvre du droit de l'Union européenne. Les conflits doivent être neutralisés, non en supprimant tout contrôle, mais en les reconfigurant, en les laissant aux marges du droit, en les empêchant de s'élever jusqu'aux juridictions suprêmes, nationales ou européennes. Les conflits sont ainsi réduits à un niveau d'intensité faible, contenu, afin de ne pas remettre en cause en fait, la construction européenne. Pour y parvenir, deux stratégies notamment ont été mises en place. Stratégies qui sont conditionnées, ce que je vais essayer de montrer, par l'ordre constitutionnel dans lequel les juridictions nationales agissent. En premier lieu, les juridictions nationales tendent à limiter les ruptures d'équivalence aux violations les plus graves des droits fondamentaux, ce que je vous indiquais un petit peu plus tôt. Sur ce point, un consensus semble exister entre les juridictions nationales, la Cour européenne des droits de l'homme et même la Cour de justice de l'Union européenne, qui, du bout des lèvres, a reconnu la possibilité de suspendre la mise en œuvre du droit de l'Union européenne en cas de violation substantielle et grave des droits fondamentaux, y compris constitutionnels. Mais il n'en demeure pas moins que la détermination de ces violations demeure propre à chaque État et dépendant des spécificités de chacun de ses ordres juridiques. Par exemple, le droit au juge. Qu'est-ce que c'est qu'une violation grave du droit au juge? Dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen, il peut être ordonné contre quelqu'un qui a été condamné par contumace, sans que la personne condamnée puisse demander un second procès. En Allemagne et en Espagne, une telle pratique est une violation du cœur du droit au juge et même en Allemagne de la dignité humaine. Pour la Cour de justice de l'Italie, c'est parfaitement conforme aux droits fondamentaux et c'est au contraire une mesure qui permet d'augmenter l'efficacité du mandat d'arrêt européen et qui permet de s'assurer des transferts rapides entre les différents États membres. En France et au Royaume-Uni, c'est une atteinte au droit au juge, mais qui peut être acceptable si justifiée par certaines considérations d'intérêt général, notamment si la personne a esquivé le procès ou s'il s'agit d'un procès lié à des atteintes particulièrement graves aux intérêts de la nation. Et donc, on a trois visions très différentes de ce qu'est le cœur du droit au juge et de ce qu'est une violation grave de ses droits. Et cette situation confirme en fait la logique du fonctionnement de l'équivalence. La mise en œuvre de cette obligation est filtrée au travers de l'ordre constitutionnel des États, et la détermination de ce qu'est une violation grave des droits est propre à chaque État, et ainsi autonome vis-à-vis de l'Union européenne, de la Cour européenne des droits de l'homme ou des autres États membres, et dépendante en réalité de conceptions internes sur ce que c'est qu'un droit fondamental, sur quelle est la hiérarchie entre les droits fondamentaux, ce que c'est qu'une violation grave, et sans doute aussi souvent, dans le cas de l'Allemagne et l'Italie notamment, c'est très frappant, aussi de l'histoire. De leur rapport aux droits fondamentaux. Si on regarde le deuxième mécanisme de neutralisation des conflits liés à l'équivalence, on retrouve la même logique. Une des méthodes utilisées, c'est de procéder à une appréciation concrète de l'équivalence. La rupture de l'équivalence peut en effet être la conséquence d'un acte individuel mettant en œuvre le droit de l'Union européenne ou d'un acte de portée générale tel qu'un règlement ou une loi. Or, le contrôle d'un acte de portée générale est particulièrement problématique pour l'unité et l'effectivité de la mise en œuvre du droit de l'Union européenne. Si une juridiction venait à établir, par exemple, que les dispositions du Code de procédure pénale mettant en œuvre le mandat d'arrêt européen étaient contraires au droit constitutionnel, c'est l'ensemble des mandats d'arrêt européens en France qui devraient être suspendus. Pour éviter cette difficulté, les juridictions nationales et européennes ont tendance à ne pas contrôler la rupture d'équivalence in abstracto, mais à procéder à un contrôle de l'application des actes de portée générale. Ils ne vont pas contrôler le code de procédure pénale et les dispositions impliquées, mais la décision concrète de transférer un individu d'un pays à un autre. Mais cette tendance, en fait, est évidemment dépendante de l'organisation des différents ordres juridiques dans lesquels elle se déploie. Une telle méthode n'est pas employée par toutes les juridictions. Seules celles y ayant recours dans d'autres contentieux, indépendamment du droit de l'Union européenne, semblent l'employer. En ce sens, l'équivalence ne bouleverse pas l'architecture contentieuse des États, mais se déploie en son sein. Les juridictions qui sont saisies dans le cadre d'un contrôle a priori et préventif ne peuvent par exemple pas faire évoluer leurs compétences, même si cela serait bénéfique pour l'effectivité du droit de l'Union. Elles vont alors déployer d'autres stratégies. Ça a été le cas par exemple du tribunal portugais dans les recours relatifs aux mesures d'austérité, qui a pris en compte le contexte d'interprétation pour faire évoluer dans le constitutionnel, alors qu'elle a procédé à un contrôle in abstracto de mesures problématiques. L'office du juge national, lors de la mise en œuvre du droit de l'Union européenne, demeure conditionné par les ordres juridiques dont il relève. Et ça, c'est confirmé aussi, si on s'intéresse un instant, à la question de la précarité de l'équivalence. En effet, un autre aspect de l'équivalence, je vous l'ai signalé tout à l'heure, c'est qu'elle est nécessairement précaire. L'équivalence est une exigence de similarité entre les ordres juridiques, mais des différences sont toujours possibles. Cependant, l'examen de la pratique de l'équivalence des protections des droits fondamentaux révèle l'existence de divergences dont la portée entraîne une rupture de cette similarité. Cette précarité de l'équivalence est constitutive des rapports entre les ordres juridiques nationaux et européens. Elle est le produit de la structure de l'Union européenne. Celle-ci, en fait, n'est pas en mesure d'imposer au sein des États membres une conception homogène des droits fondamentaux qui permettrait d'éviter toute rupture de l'équivalence. Et ça résulte, à mon sens, de deux choses. D'une part, l'absence de conception européenne des droits fondamentaux. Et d'autre part, l'absence de moyens de coercition de l'Union européenne. Concernant d'abord l'absence de conception européenne des droits fondamentaux, il faut d'abord préciser ce que j'entends par conception des droits fondamentaux. Cela s'appuie sur un article de Bokenfors II publié en 1914 portant sur les rapports entre la théorie des droits fondamentaux et leur interprétation. Et après cet article, c'est une notion qui s'est développée au sein de la dogmatique constitutionnelle allemande pour désigner une conception à prétention systématique relative au caractère général, aux finalités normatives et à la portée matérielle des droits fondamentaux. L'idée de ce type d'idée, c'est de partir du constat que les dispositions relatives aux droits fondamentaux sont lacunaires. Pour être concrétisées, ces dispositions nécessitent donc une interprétation qui ne peut pas être entièrement libre, mais doit être dérivée d'une conception générale de ce que c'est qu'un droit fondamental, de l'objectif d'un ordre constitutionnel, de l'objectif des différents droits fondamentaux et de la manière de les appréhender. Et cette conception impose une interprétation homogène du sens et de la portée des droits fondamentaux au sein d'un ordre juridique. Et le recours à l'équivalence des protections de droits fondamentaux repose sur le prémisse selon lequel il existe de telles conceptions de droits fondamentaux dans les ordres juridiques nationaux et européens. En effet, cette existence conditionne l'opération de comparaison au fondement de l'équivalence des protections de droits fondamentaux. Si les décisions de chaque institution d'un ordre juridique sont indépendantes les unes des autres, si le tribunal administratif de Melun peut avoir une conception différente des droits fondamentaux que le tribunal administratif de Paris, il est impossible de dégager une conception spécifique des droits fondamentaux au sein de cet ordre juridique. Or, en l'absence d'une telle conception, il est impossible de les comparer dans le but d'établir une similarité entre elles. La comparaison suppose une certaine stabilité qui permet d'établir qu'à l'avenir, les décisions adoptées seront similaires aux décisions passées. Et l'équivalence implique donc nécessairement d'estimer que les ordres juridiques nationaux et de l'Union européenne disposent de conceptions homogènes en leur sein des droits fondamentaux. Toutefois, ce que j'ai essayé de montrer dans ma thèse, c'est qu'il n'existe pas de conception commune englobante aux ordres juridiques nationaux et européens. Et l'examen de l'équivalence, et notamment de ses ruptures, le démontre. Un bon exemple sur ce plan-là, c'est l'affaire Grogan de la Cour de justice des communautés européennes, dont l'arrêt a été rendu en 1991, et qui concernait le droit à l'avortement en Irlande. Quand la Cour de justice a été saisie de cette question relative au droit à l'avortement, et plus précisément au droit d'informer sur l'avortement dans un autre État membre, la Cour de justice était confrontée au fait indéniable qu'il n'y avait pas en fait de consensus, ni même d'accord minimal, sur ce que c'était que le droit à la vie en Europe. Et donc, en l'absence de conception commune des droits fondamentaux, elle a préféré d'ailleurs botter en touche en se prononçant sur des questions de procédure et de recevabilité. Et donc, dans un tel contexte, en l'absence de conception commune et globale des droits fondamentaux, l'équivalence est nécessairement précaire. Si une conception commune existait, elle garantirait l'homogénéité des arbitrages dans les différents ordres juridiques. Et donc, il n'y aurait pas de rupture, il n'y aurait pas d'écart entre les différentes conceptions de droits fondamentaux. Encore faut-il préciser que ce constat ne signifie pas l'échec de l'équivalence. Elle n'a pas besoin d'un point de vue englobant pour articuler les rapports entre les ordres juridiques, car il y a un processus interne aux différents ordres juridiques par lequel chaque ordre juridique concilie les différentes exigences d'ouverture vers les autres ordres juridiques et la protection des droits fondamentaux. Il n'en demeure pas moins que l'absence de conception commune pose deux difficultés. La première, c'est qu'elle rend l'équivalence précaire, c'est-à-dire qu'il y a régulièrement, pas quotidiennement, mais assez régulièrement, des ruptures de l'équivalence qu'il faut gérer et qu'il faut parvenir à affronter. Mais ça implique aussi une deuxième difficulté, c'est que dans la mesure où chaque ordre juridique détermine les conditions de son ouverture au droit extérieur, il est toujours possible pour les autorités d'un État de s'opposer unilatéralement à la mise en œuvre du droit de l'Union européenne sans qu'un observateur extérieur puisse s'y opposer en se basant sur des principes communs. Il n'est pas possible, au fond, de condamner des usages illégitimes de l'équivalence. Et ça, on le voit très bien avec les cas hongrois et polonais. Vous le savez sans doute, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle une crise des valeurs dans l'Union européenne, avec des États en Pologne, en Hongrie, qui, pour différentes raisons, s'écartent des conceptions communes des droits fondamentaux et différentes valeurs de l'Union européenne. Et les juridictions concernées de ces États s'appuient sur des raisonnements en termes d'équivalence pour estimer qu'au fond, ils refusent d'appliquer le droit de l'Union européenne parce que ce droit est contraire à leur conception de droits fondamentaux. Et ils citent explicitement les décisions allemandes, françaises, italiennes en la matière, en disant, mais au fond, on fait la même chose qu'eux, et pourquoi voulez-vous nous sanctionner, alors qu'en réalité, nous ne faisons qu'appliquer qu'un raisonnement qui est appliqué également par les juridictions des autres États membres. Ça provoque évidemment une situation politiquement risquée pour l'Union européenne, mais c'est une conséquence de sa structure, et c'est une limite de ses ressources pour condamner la violation des droits fondamentaux par un État membre. Et cette difficulté me semble aggravée par un autre élément de la structure de l'Union européenne, sur lequel je vais passer vraiment très très vite, qui est l'absence de pouvoir de coercition. Il y a évidemment des mécanismes de contrôle des États membres, le recours en manquement, le renvoi préjudiciel le permet aussi, l'activation de l'article 7 du traité sur l'Union européenne, évidemment. Mais ces différents mécanismes ne permettent pas de contraindre l'État de changer sa politique. Au fond, l'Union européenne n'est pas un État fédéral, n'a pas la possibilité d'envoyer des forces coercitives dans les différents États pour les forcer à agir. Et quand le Premier ministre polonais décide unilatéralement de suspendre l'application des droits de l'Union européenne dans son État, l'Union européenne peut le menacer, peut le sanctionner, peut faire ce qu'elle veut, mais elle n'arrivera pas à réactiver cette mise en œuvre. Et il y a cette faiblesse-là est apparue relativement régulièrement dans l'histoire de l'Union européenne. Ainsi, je conclurai ainsi, l'équivalence fait apparaître une tension cruciale au sein de la construction européenne. Les ordres juridiques nationaux et européens sont autonomes, alors qu'au fond, leur coordination est nécessaire pour la réussite du projet européen. L'étude de l'équivalence révèle que les rapports entre les ordres juridiques nationaux et européens sont conflictualistes et internistes, les ordres juridiques étant déterminés par des contraintes et exigences internes à chacun. Il y a bien des clauses qui organisent leur convergence, mais rien ne permet de garantir que les arbitrages internes à chaque ordre juridique ne s'écarteront pas les uns des autres. Encore faut-il bien comprendre cette conclusion, et parce que les États sont des États ouverts, liés par le droit de l'Union européenne, et le plus souvent volontaires dans l'application du droit de l'Union européenne, la mise en œuvre du droit de l'Union est dans l'ensemble effective. Les ruptures d'équivalence sont rares et les convergences les plus fréquentes, mais l'étude de l'équivalence révèle au fond non l'anarchie d'un conflit permanent entre États souverains, mais la présence latente de ces conflits potentiels qu'en sa forme actuelle, l'Union européenne ne peut ni résoudre ni éviter. Je vous remercie pour votre attention et j'espère ne pas avoir été affreusement long.